Retrouvez tout de suite La France bouge avec Boulanger. Parce qu'il est temps de prendre soin de ceux qui prennent soin de nous, Boulanger s'engage avec l'opération hashtag Agir pour les restos. Rendez-vous sur boulanger.com.
Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons passer une heure ensemble. On vous montre qu'en France, des femmes et des hommes se retroussent les manches pour faire face à la crise, des entrepreneurs, des associations qui se réinventent et qui trouvent des solutions même en ce moment. La France bouge à mes côtés. Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à tous. Il est interdit de skier à Noël et au jour de l'an. Alors comment les stations de ski se préparent quand même pour accueillir les touristes et surtout, comment s'organisent-elles pour ouvrir au moins pour les vacances de février? Plus globalement, comment ce secteur se réinvente pour faire face aux défis écologiques et à une montagne qui a de plus en plus la côte l'été? Notre invité, c'est simple, c'est le leader mondial des remontées mécaniques, la Compagnie des Alpes.
À la une, en effet, la montagne, même pendant cette période si spéciale, il existe des innovations en matière de ski. Des Français osent et nous allons découvrir Sillage, des skis fabriqués en France. On en parle avec le fondateur d'ici quelques minutes.
Le ski n'est pas le seul secteur interdit du moment. Un zoo et parcs d'attractions attendent aussi leur réouverture. C'est le cas, tiens, par exemple, du zoo de Beauval qui espère rouvrir fin janvier. Ce sera notre saga du jour autour de 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1, La France bouge. Un projet est défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de La France bouge et CCI France, notre partenaire, ont retenu Spareka. Vous avez peut-être des appareils à la maison ou pour le jardin qui ne fonctionnent plus. Eh bien, Spareka a la solution. On va écouter leur pitch à 13h45.
Et bien sûr, demain au travail, faciliter le télétravail en équipant ses collaborateurs. C'est l'initiative de Liveplan. On vous en parle à 13h50.
Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bienvenue dans La France bouge.
La France bouge sur Europe 1.
Bon allez, on le sait, hein, ça va pas fort pour les stations de ski. Les acteurs de la montagne se retroussent donc les manches pour quand même réussir un bout de saison. Et on va parler de tout cela jusqu'à 14h dans La France bouge avec notre grand patron du jour.
Et donc avec vous, Dominique Marcel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG de la Compagnie des Alpes. Ça existe depuis 1989. La Compagnie des Alpes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est le numéro 1 mondial des domaines skiables. Vous exploitez, allez, je les cite, quelques stations pas très inconnues, hein, comme Val d'Isère, Tignes, Les Menuires, Méribel, La Plagne, Les Arcs, Serre-Chevalier, la liste est encore très longue. Vous avez aussi des parcs d'attractions, comme par exemple le Futuroscope, France Miniature, Walibi ou encore le parc Astérix. Alors on va commencer par le ski, évidemment. Vous ne pouvez pas ouvrir à Noël, c'est une décision du gouvernement, ni pour le jour de l'an. Comment vous comprenez cette décision ?
Comme vous le savez, nous ne la comprenons pas très bien parce que nous pensions que nous avions à la fois mis au point des protocoles suffisamment crédibles et sérieux d'ailleurs avec les pouvoirs publics, parce que nous pensons que nous gérons des espaces aérés qui ne présentent pas plus de risques et peut-être même moins que certains espaces fermés qui ont été autorisés comme les spectacles, et encore une fois nous nous en réjouissons, les théâtres. Donc nous ne présentons pas nécessairement plus de danger. Une station ne présente pas plus de danger que n'importe quelle ville, dès lors qu'en plus il y aura un couvre-feu à partir du 15 décembre. Donc nous avons été surpris et puis nous avons été un peu surpris de la méthode. La méthode est aussi importante, en tout cas importante.
C'est-à-dire que vous l'ayez appris comme ça sans...
Et il y a la méthode, absolument, absolument.
Vous l'avez appris en effet, hein, parce que le président de la République l'a dit alors que vous étiez officiellement en pleine concertation,
absolument,
notamment avec le Premier ministre. Il y a les présidents de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des départements de Savoie, Isère et Haute-Savoie, et les professionnels de la montagne ont annoncé la saisine du Conseil d'État contre cette décision de fermeture. Ce référé liberté est déposé logiquement cet après-midi devant le Conseil d'État. De façon très concrète, vous espérez encore pouvoir trouver une solution pour ouvrir à Noël et au jour de l'an ?
Écoutez, nous verrons bien. Nous comprenons en tout cas qu'on fasse un recours compte tenu des enjeux. Hein. Je le répète, Noël, c'est très important pour nous.
C'est 20% du chiffre d'affaires.
Voilà, à peu près, plus pour certains, un peu moins pour d'autres. Donc c'est un enjeu important pour une saison qui dure 4 mois, ne l'oublions pas. Donc nous nous battons sur le fond, nous battons aussi sur la méthode. Nous verrons bien, nous pensons que nous avions encore jusqu'à la fin de la semaine prochaine, parce que la situation sanitaire s'améliore. Bien sûr que nous ne sommes pas optimistes.
Elle s'améliore, certes, mais est-ce que vous avez une idée du taux d'occupation ou de saturation des réanimations dans les hôpitaux en Haute-Savoie ?
L'idée que nous avons notamment en Savoie, c'est que ça a baissé très sensiblement au cours de ces 15 derniers jours. Ça baisse un petit peu moins rapidement en Savoie, mais nous le disons surtout, laissons encore ce que nous aurions souhaité, c'est qu'on laisse encore un peu de temps, parce qu'on a encore un peu de temps, pour appuyer sur le bouton et lancer la saison.
Ça veut dire quoi avoir du temps? Parce que les vacances de Noël commencent le 18-19 décembre, c'est quand même là dans un délai très très proche. Il vous faut combien de jours pour allumer la machine?
Nous, il nous faut 2-3 jours. Hein. Nous, opérateurs de domaine skiable, nous avons embauché nos équipes seront sur place.
C'est-à-dire que de façon concrète, vous avez des saisonniers qui attendent sur place une éventuelle réouverture.
Qui attendent et qui sont tout prêts à venir, ils sont embauchés, ils sont prêts à venir quand on les appellera, mais ils sont prêts. Nous avons aussi des permanents, n'oublions pas, donc nous avons des équipes qui sont déjà sur place, donc nous pouvons agir très vite.
Mais vous comprenez bien l'idée de protéger aussi les soignants et le personnel dans les hôpitaux alentours des stations de ski pour qu'il n'ait pas à faire face à un afflux de celles et ceux qui font du hors-piste, qui se cassent la figure pendant le ski.
Nous le comprenons, nous sommes très attentifs à la situation sanitaire, bien sûr. Nous avons fait valoir que la très grande partie de nos blessés ne vont pas dans les hôpitaux comme par exemple l'hôpital de Chambéry en Savoie, que nous avons des hôpitaux locaux, des centres locaux, des médecins qui les traitent et qui traitent la très grande majorité de ces blessés.
Je crois que vous avancez le chiffre de 4 sur 5 qui sont traités directement en station. Alors, soyons très concrets. Si Elisabeth et moi, on va en station, dans une de vos stations, tiens par exemple les Menuires, qu'est-ce qu'on a concrètement le droit de faire? Est-ce qu'on a le droit de partir en groupe, faire des raquettes? Est-ce qu'on peut faire du ski de fond? Parce qu'Elisabeth est très forte en ski de fond.
C'est une bonne question. Aujourd'hui, je ne peux pas encore vous dire exactement ce que vous pourrez faire. Il faut attendre les arrêtés préfectoraux qui fixeront les conditions d'ouverture d'une partie du domaine skiable nécessaire pour faire des activités de raquettes, de randonnée, de balade à pied. Parce qu'évidemment, il faut un dispositif clair, établissant bien les responsabilités des uns des autres, la sécurité.
Parce que si on prend l'exemple du ski de fond, au moins au démarrage, il faut bien que la piste soit damée.
Mais bien
il faut
sûr, elle sera
partir.
Préparée et puis qu'elle soit surveillée, parce que quand vous ferez aussi de la randonnée en pot de phoque, etc., il peut y avoir des accidents. Donc nos pisteurs devront être là. En tout cas, nous sommes, ce qui est clair, c'est que la CDA, c'est que dans nos stations, nous serons évidemment prêts
mais
à
vous êtes
assurer
prêts.
Ce service. Dès lors qu'il y a un dispositif juridiquement clair de responsabilité.
Mais au moment où on se parle, vous, patron de la Compagnie des Alpes, leader mondial du ski, vous ne savez pas si on peut faire des randonnées.
On est en train de discuter avec les préfets, les autorités locales, et on sera prêts. Alors là, je n'ai pas de soucis là-dessus.
Et 3 jours. En 3 jours, c'est fait.
Ah oui, ça c'est clair. Sans problème. Vous pourrez aller faire du ski de fond.
On pourra aller faire du ski de fond. Alors certains rêvaient d'aller faire du ski à Zermatt, à Verbier, les plus belles stations de ski en Suisse. Alors il faut quand même avoir les moyens. On est aux alentours de 100 francs suisses, un bon 90 euros pour ceux qui ont envie d'aller skier là-bas par jour. Mais le gouvernement a dit non, il n'en est pas question. On met en place une quarantaine, entre guillemets, au retour. Là, vous êtes content?
Non, je ne suis pas forcément content. D'abord, on avait, je pense que ça ne concerne pas forcément beaucoup de Français. Je pense qu'en plus, on n'évitera pas, on n'arrivera pas à contrôler, vous vous en doutez. Je ne suis pas sûr qu'on règle ce problème en décrétant des interdictions. On décrète beaucoup d'interdictions aujourd'hui et nous, ça ne nous satisfait pas complètement.
Dominique Marcel, vous êtes le PDG de la Compagnie des Alpes. On va continuer à parler des stations de ski parce qu'il y a des solutions qui vont émerger de tout ça. Donc vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On parle de notre montagne dans la France bouge. Aujourd'hui, un secteur qui trouve des solutions. Même si les stations de ski vont être fermées pendant quelques semaines, elles se réinventent. Et on en parle avec notre grand témoin du jour, Dominique Marcel, le patron de la Compagnie des Alpes, qui est le leader mondial. Bah oui, on a des leaders mondiaux en France, des remontées mécaniques.
Et puis tiens, si on rêvait un petit peu de ski, Emmanuel, si vous êtes d'accord. Nous sommes avec Christian Allary. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Sillage. Sillage, c'est du ski haut de gamme, fabriqué en France. Et vous êtes aussi le fondateur de la Fabrique du Ski, qui sont aussi des skis fabriqués en France. Vous, votre idée, c'est de fabriquer du ski made in France. D'ailleurs, vous les fabriquez dans le Vercors, à Villard-de-Lans. Comment vous est venue cette idée?
Eh ben, écoutez, la Fabrique du Ski est née en 2014. Moi, j'ai toujours travaillé dans l'industrie du ski. J'avais plus de 20 ans d'expérience dans la conception de produits ou la production pour les plus grandes marques. Et j'ai fait produire de partout dans le monde, sauf en France, qui pourtant la France était un grand bassin de production de ski dans les années 70. Et tout ça s'est perdu. Donc c'était dans l'idée d'avoir un retour au savoir-faire en France, une sorte de craquante de ma part, de dire ben, j'arrête de faire produire en Asie ou en Europe de l'Est et je reviens en France.
Alors, qu'ont-ils de si spéciaux ces skis très haut de gamme du côté de Sillage, Christian Allary?
Eh ben, sillage, on s'est fait un peu plaisir. On a travaillé des niveaux de finition et une cosmétique, on va dire, très haut de gamme, puisqu'on mixe les matières, les jeux de matières, en fait, où on travaille sur une base de ski en aluminium, de ski en titanal. Et on va rajouter du bambou, du carbone ou même de la pierre, de l'ardoise. Et on va révéler une décoration par gravure. Donc, c'est assez haut de gamme.
Si vous nous suivez, là, on peut les voir en direct sur europe1.fr. Ils sont absolument magnifiques.
Vous avez déjà convaincu Elisabeth, vous voyez, ça c'est déjà un très très bon point, parce qu'elle n'est pas toujours facile quand même pour ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que là on n'est pas que sur des skis haut de gamme pour la décoration, ce sont des skis aussi très techniques.
Oui, ce sont des skis très, très techniques, on a une façon de faire qui est issue de la course, donc du ski racing, et on a vraiment ce procédé-là de fabrication de skis de course qu'on applique au ski grand public. Donc on a travaillé sillage pour conserver, on va dire, les facteurs importants qui sont le confort, la croche du ski, la sécurité du produit, mais on a enlevé un petit peu de performance pour le rendre plus accessible et skiable par tous.
Donc confort, accroche du ski, plus accessible pour tous les niveaux, hein, j'entends, pas forcément pour tous les porte-monnaies.
Exactement, en tout cas en ce qui concerne le sillage, oui, c'est un peu cher.
C'est-à-dire, quand c'est cher, ça veut dire quoi?
C'est un peu cher, non, parce que le temps qu'on y passe est assez important.
Coût, bien sûr.
C'est entre sillage et entre 1300 et 2000 euros la paire, quand la fabrique du ski est plus autour de 650 euros TTC de prix moyen.
On a des skis quand même aussi qui sont fabriqués en France, par exemple Rossignol, qui est l'un des géants du secteur, a aussi relocalisé une partie de sa production en France. Est-ce que dans ce secteur aussi, le Made in France, c'est important, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, mais la clientèle étrangère est totalement indispensable à nos stations et chaque année, on progresse là-dessus. Est-ce que du coup, être Made in France, ça veut dire être expert au même titre qu'un expert du luxe reconnu internationalement parlant ?
Oui, oui, je pense, même si Rossignol produit en France, mais sur un procédé ski un peu particulier, on a quand même beaucoup perdu dans les années 2000, et on a perdu beaucoup d'usines. Avant, il y avait Dynamic, il y avait Salomon, il y avait Rossignol, et il y a toujours Dynastar à Salanche. Mais on a quand même beaucoup perdu, et on avait un savoir-faire qui était reconnu dans le monde entier. Moi, une de mes dernières expériences était de créer une usine aux États-Unis avant de revenir en France. Donc, on est reconnu là-dessus, et notre savoir-faire est reconnu dans le ski. Au même titre que dans le luxe, oui.
Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes, vous êtes notre grand patron du jour. Le Made in France, vous, avec toutes les stations que vous exploitez, est-ce que c'est une valeur sûre ? Est-ce
Bien
que
sûr.
Ça attire ?
Bien sûr, c'est une valeur sûre, c'est une voiture qui attire. Ça, je pense que ça fait aussi quelque part pour l'attractivité.
Mais
moi, je me réjouis qu'il y ait ce type d'entreprise qui se développe aujourd'hui. Ça enrichit l'offre et ça montre surtout une chose, c'est que le ski a vraiment un avenir. Oui, c'est très réconfortant.
Et quand vous dites que ça attire dans vos stations, comment savons-nous, par exemple, qu'à Val d'Isère ou au Ménuire ou encore à La Plagne, c'est quoi ? Ce sont des restaurants qui vont faire beaucoup plus de produits français ? Ce sont des hôteliers
Oui, bien sûr, des produits régionaux, c'est de vanter les produits français et c'est quand même un art de vivre, les stations françaises, le ski qui est bien made in France. Là, il n'y a pas de sujet.
Et là, j'imagine que vous voyez que les réservations sont quasiment nulles en ce moment pour les étrangers dans vos stations de ski. Où vous avez quand même, on sait que les Britanniques, par exemple, c'est une énorme clientèle, les Belges également.
Si vous voulez, à l'heure où je vous parle, oui, elles sont très faibles parce qu'il y a encore des restrictions, il y a encore des quarantaines et il est normal que ce soit très faible. Mais nous comptons beaucoup dès lors qu'on déclenchera l'ouverture sur du last minute, je dis même du last seconde, et grâce au digital, grâce à tous les dispositifs qu'on a, et comme nous savons qu'il y a une très forte appétence de nos clients pour venir, on l'a vu sur le trafic sur nos sites, sur Travelski, qui est notre distributeur, donc nous sommes plutôt confiants. Mais il est sûr que la clientèle étrangère, notamment en janvier, sera très faible.
Mais est-ce que vous avez une date de possible réouverture ? Puisque par exemple, les restaurants savent que c'est le 20 janvier. Est-ce que vous, dans les réunions que vous avez avec le gouvernement, on vous dit que vous rouvrirez à telle date ?
Ça n'a pas encore été évoqué. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est courant janvier. Je comprends, mais peut-être que je me trompe, que la clause de revoyure, notamment, dont a parlé le chef de l'État et le Premier ministre, pourrait peut-être nous donner quelques indications sur la date de réouverture en janvier.
Christian Larry, fondateur de Sillage et de la fabrique du ski, vous en êtes où par rapport aux conséquences de la fermeture de ces stations ?
Nous, on a pris, comme la Compagnie des Alpes, on a pris déjà le premier confinement de plein fouet, puisque en général, toutes les commandes magasins, les commandes professionnelles se passent après mi-mars. Donc, ça n'a pas été le cas, puisqu'on était dans le premier confinement. Et le deuxième confinement, au mois de novembre, nous a fait beaucoup de mal, ça c'est sûr. On était, on va dire, à mi-automne, donc ça pouvait encore passer, mais la fermeture des stations nous fait énormément de mal.
Mais c'est ça va peut-être repartir, là, s'il y a des décisions, si ça bouge un petit peu.
Oui, c'est évident. C'est évident que ça peut repartir directement, mais forcément, nos clients sont pas intéressés en ce moment à acheter des paires de skis. Ils attendent d'avoir des certitudes.
Alors, en attendant les certitudes, merci en tout cas, Christian Allary, le fondateur de la fabrique de skis et de sillage.
Dominique Marcel, merci le patron accueil. De la Compagnie des Alpes, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Le tour des initiatives positives et novatrices continue tout de suite dans La France Bouge avec Boulanger.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
L'innovation, le positif, tout ça, c'est chaque jour entre 13h et 14h dans La France Bouge avec Elisabeth. On est très heureux de vous accueillir et notamment aujourd'hui pour parler de ski avec Dominique Marcel, le patron de la Compagnie des Alpes. Alors cette polémique sur la non-réouverture prend une place énorme, alors qu'il y a peut-être un chiffre quand même très important à rappeler. 8% seulement des Français font du ski. La raison est simple, c'est hors de prix. Comment on démocratise le ski ?
Alors, d'abord, je nuancerai un tout petit peu le hors de prix. Alors, le ski lui-même, comme vous le savez, le forfait, c'est 15 à 16% de la dépense globale. On démocratise le ski en faisant des hébergements ou en proposant, parce que l'hébergement est un point très très important, qui soit à des prix raisonnables. Je pense qu'on essaie tous collectivement de s'y employer. Et je crois qu'il y a un enjeu autour de ça, c'est celui des jeunes. Mmh. C'est de pouvoir recevoir aujourd'hui des jeunes. C'est les jeunes, c'est ceux qui feront le ski demain. Et donc, nous travaillons avec d'autres opérateurs, travaillons sur des solutions, notamment des auberges de jeunesse un peu relookées, enfin bien rénovées.
On a envie d'aller, quoi.
Mais vous voyez le concept, pour pouvoir accueillir des jeunes, entre autres, il y a d'autres initiatives, dans des conditions agréables et de prix raisonnables, pour qu'ensuite ils continuent de skier. Parce qu'encore une fois, l'enjeu majeur pour nous, c'est les jeunes. C'est la clientèle jeune.
Alors Dominique Marcel, on va aller dans un monde idéal. Les stations vont ouvrir. Est-ce que ça signifie que les forfaits vont être plus chers cette année pour vous rattraper ?
Non, les forfaits continueront. Les forfaits cette année. Il n'y a aucune raison. Ils suivent une évolution extrêmement modérée maintenant. Enfin, quasiment vraiment très 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 faible. Quoi. Il n'y a pas de
Il n'y aura pas de surcoût
en augmentant les forfaits.
Donc pas de surcoût là-dessus. Tout ce qui est hôtellerie, restauration non plus. Il y aura
écoutez,
un mot d'ordre.
Je ne veux pas parler au nom des hébergeurs, même si on est quand même un peu hébergeurs nous-mêmes, puisqu'on gère, vous savez, le premier réseau d'agences immobilières dans les Alpes. Je ne crois pas qu'il y ait de raison d'augmenter. Je dirais même un peu au contraire.
Ouais, faisons des efforts cette année. Les stations ont un autre défi face à elles, le manque chronique de neige, hein, parce que c'est vrai que là on parle beaucoup de la réouverture, mais pour le moment il y a très très peu de neige dans les stations. Mais plus globalement, comment la neige peut-elle être écologique à l'heure où on en manque ?
Alors, d'abord, on a effectivement à faire face au réchauffement climatique. Nous y travaillons. Travaillons notamment pour configurer les pistes de manière qui soit plus appropriée par rapport à l'évolution des conditions d'enneigement. Nous travaillons avec des chercheurs sur l'évolution de nos conditions d'enneigement dans nos sites. Nous travaillons sur des dispositifs de neige de culture qui soient plus qualitatifs, avec un meilleur rapport quantité-énergie. Et vous savez que la neige de culture, c'est une très bonne neige de culture en termes de qualité.
Elle demande beaucoup d'eau et ce genre de choses à produire.
Et elle demande, oui, mais nous diminuons très largement à la fois le coût énergétique et nous augmentons sa qualité. Je rappelle encore une fois que la neige de culture, c'est de l'eau et que cette eau, elle revient sur le territoire. Et ce que nous faisons à côté, c'est que nous développons et nous recherchons d'ailleurs les meilleurs dispositifs de réserve d'eau pour justement avoir un stockage en eau, parce que nous sommes extrêmement attentifs à la consommation d'eau, qui en effet pourrait poser problème si nous ne stockons pas. Donc on avance beaucoup sur toutes ces questions pour justement faire face au défi de l'enneigement et au défi du réchauffement climatique. Il y aurait bien d'autres initiatives, mais je serai trop long.
Alors l'autre enjeu pour vous, c'est aussi la montagne l'été, hein, la montagne qui accueille de plus en plus de monde chaque année, notamment cette année où ça a été un record absolu, peut-être l'effet confinement, l'effet crise. Vous êtes l'opérateur des remontées mécaniques, Dominique Marcel. Comment pouvez-vous les utiliser toute l'année, ces remontées ?
Alors, les remontées mécaniques, évidemment, on les utilise assez peu l'été, on les utilise quand même pour transporter, etc. Un petit peu, mais ce que nous voudrions, et c'est évidemment aussi une conséquence du réchauffement climatique, c'est de développer, d'abord de sortir du tout-ski, et nous devons sortir du tout ski.
Même mais si l'enjeu, il est là pour vous
bien aujourd'hui. Sûr, l'enjeu, il est là. Nous avons encore pas mal de dizaines d'années pour skier. Hein. Ne soyons pas pessimistes, en tout cas dans nos stations et dans beaucoup de stations.
Non, mais même au-delà du ski, pour attirer une nouvelle clientèle, bien entendu,
pour mieux équilibrer, pour avoir une saison qui soit justement pas de 4 mois, qui soit mieux répartie sur l'année. Donc nous travaillons sur un certain nombre d'activités pour créer un écosystème
qui soit viable,
qui soit rentable pour les territoires.
Par exemple,
par exemple, des activités ludiques, des activités sportives, des activités culturelles, dans le cadre d'un projet global qui sera financé par un certain nombre d'acteurs et qui apportera une rentabilité économique et sociale pour l'ensemble des acteurs et pour le territoire.
C'est pour quand ça ?
Ben, nous avons des projets, nous avons un projet prototype en quelque sorte, un projet pilote à Samoins, si vous connaissez, Samoins-Flaine. Ça va prendre un peu de temps. Cette transition, elle va prendre un peu de temps. Il faut être très lucide. Elle va prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut la faire dès maintenant. Mais nous avons le temps de la faire progressivement.
Alors, la Compagnie des Alpes, c'est aussi le développement de nos stations de montagne, des remontées mécaniques, mais ce sont aussi des parcs d'attractions. Vous exploitez des parcs d'attractions et des zoos.
Ouais, on va aller justement maintenant au zoo de Beauval, hein, qui n'est pas un zoo dirigé par la Compagnie des Alpes. C'est un zoo familial qui existe depuis 40 ans. Et jusque-là, il n'avait jamais fermé de sa vie, mais le zoo va rouvrir le 30 janvier. C'est la saga du jour qui nous est racontée aujourd'hui par Charlotte Barrican.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Françoise Delors était comédienne et gagne un jour deux oiseaux, des capucins à bec d'argent. Démarre alors l'aventure de Beauval. Delphine Delors, directrice générale associée du zoo de Beauval.
C'était incroyable. J'ai eu une enfance bercée par des perroquets qui passaient dans l'appartement. La nuit, on avait une des salles de bain qui était fermée, dans laquelle on avait mis des rapaces. Et donc, la nuit, on les lâchait. Moi, j'avais une chouette qui se perchait au bout de mon lit et qui faisait ouh toute la nuit. Elle a coupé un tiers du salon pour faire une volière. Elle a récupéré la chambre de mon frère qu'elle a convaincue que c'était beaucoup mieux d'aller dormir dans la chambre de sa sœur pour par la suite des perroquets. On a eu énormément d'oiseaux à Paris. On a fini par en avoir 400. Et à 400, il fallait vraiment déménager.
Françoise Delors a eu l'idée de créer un lieu accessible au public où toutes les espèces menacées pourraient s'y reproduire. La famille achète alors une propriété à Saint-Aignan-sur-Cher. Et en 1980, elle y ouvre un petit parc ornithologique tout autour avec 2000 oiseaux.
D'ailleurs, la maison de maman est toujours dans le parc. Elle habite toujours au milieu du parc. Ce qui fait d'ailleurs que pour nous, on a toujours un peu l'impression de recevoir nos visiteurs dans le jardin de maman. Il y a aussi cette façon de recevoir les gens. Les gens nous disent toujours, mais vous êtes toujours tellement souriant, tellement accueillant. Et c'est vrai que je pense que ça date aussi un petit peu de cette époque où finalement, on a ouvert notre jardin aux visiteurs.
Beauval se fait doucement connaître. En 1989, il devient un parc zoologique en accueillant quelques fauves et singes. Mais c'est en 1991 que tout change avec l'arrivée d'une nouvelle espèce.
Maman tombe amoureuse des tigres blancs. Et le tigre blanc, c'est une mutation du tigre jaune. C'est un ambassadeur parce que c'est une espèce qui est magnifique. Et les gens vont tomber amoureux également des tigres blancs.
Dès l'année suivante, elle construit une serre tropicale de 2000 m². Puis le parc ne cesse de grandir et d'accueillir de nouvelles espèces. La famille Delors est amoureuse des animaux. Leur bien-être et leur survie sont au cœur de leurs préoccupations.
On essaye juste de faire à notre niveau ce qui va nous plaire. Quelque chose qui va être le plus grandiose possible. Et je crois que c'est ça que les gens ressentent chez nous. Et puis toujours cet amour des animaux. Du coup, les gens nous arrêtent, nos visiteurs nous arrêtent dans le parc, mon frère ou moi, pour nous dire oh, « Mais chez vous, on sent qu'il y a quelque chose. Les animaux sont heureux, on sent qu'ils sont beaux. »
Aujourd'hui, le zoo de Beauval dispose de 40 hectares de visites, 35 000 animaux et 800 espèces. Et sa réputation n'a d'égal que la qualité de son personnel.
On a un très gros service vétérinaire, on a 7 vétérinaires et 3 aides-soignantes qui sont des collaborateurs extraordinaires parce qu'eux aussi ont chevillé au corps cet amour des animaux, ils vont travailler au bien-être au quotidien, essayer d'enrichir les lieux, de cacher des graines, cacher des fruits pour que les sages les trouvent.
Beauval n'avait encore jamais fermé, alors rendez-vous le 30 janvier prochain pour la réouverture du 4e plus beau zoo du monde.
Le 4e plus beau zoo du monde. Alors, vous n'en avez pas encore dans votre portefeuille des zoos Dominique Marcel du côté de la Compagnie des Alpes, parce que malgré ce nom, vous êtes l'un des plus gros opérateurs de parcs d'attractions. Le Futuroscope, France Miniature, Walibi ou encore le parc Astérix. Tout ça, c'est fermé aussi. Quand est-ce que vous rouvrez ?
Alors là, on comprend moins. Là, on comprend encore moins, parce qu'on ne comprend pas qu'à Noël, on ne puisse pas ouvrir nos parcs. 250 000 visiteurs entre le Futuroscope et Astérix. Pour l'ensemble de la profession, 100 millions de chiffre d'affaires pour cette période, alors qu'on a des protocoles qui, là, ont fait prouver leur efficacité cet été. Nous avons reçu beaucoup de visiteurs. Nous en recevions encore à la Toussaint quand on nous a demandé de fermer pour le dernier week-end. Et là, quand vous êtes, par exemple, au parc Astérix, 60 hectares, et que vous recevez 10 000 personnes, vous imaginez bien que la jauge par visiteur est bien plus large que celle qu'on a autorisée pour d'autres activités.
Oui, c'est à l'intérieur des manèges.
Les files d'attente et tout
mais
ça.
À l'intérieur des manèges, tout est
quand on est assis
parfait.
Les uns à côté des autres.
Mais non, mais il n'y a pas à côté des autres. Les files d'attente, les gestes de distanciation. On a eu des mois, ça s'est très bien passé. Les gens ont respecté parfaitement. Nous avons, en plus, nos collaborateurs ont accueilli. On a développé des équipes pour accueillir les visiteurs. Donc, nous ne comprenons
Disney
pas.
Disney a annoncé sa réouverture en février.
Pour nous, c'est la double peine pour la CDA.
Bien sûr. Disney a annoncé sa réouverture, je crois, le 12 février. Oui. Vous êtes sur les mêmes dates
hein. Mais nous, l'hiver, il n'y a que le Futuroscope qui s'ouvre en février. Après, nous ouvrons en avril. On espère quand même qu'on pourra en ouvrir en avril, puisque, vous le savez, on n'a pas pu cette année.
Alors, la Compagnie des Alpes, c'est un groupe presque public hein, qui est détenu par la Caisse des dépôts. Vous avez énormément d'ambition. Et je crois que vous voulez aussi vous lancer dans les résidences de tourisme.
Alors,
c'est quoi ce projet ?
Je ne dirais pas, non, on n'en est pas tout à fait là. Ce que moi j'ai voulu développer, c'est un engagement plus grand dans l'hébergement, à la fois, comme je le disais,
donc
dans
les auberges jeunesse.
Nous avons rénové, nous avons créé une société foncière pour rénover, parce que c'est important, les hébergements dans les stations de ski. Nous participons à des tours de table pour créer de nouveaux projets. Et dans nos parcs, aussi, nous créons cette fois-ci des hôtels. C'est nous qui les créons, c'est nous qui les gérons. À Astérix, où il y a maintenant 450 chambres. Et nous avons 3 hôtels, c'est-à-dire près de 2000 lits. Et notre dernier hôtel a été considéré, je m'arrête un peu là-dessus, comme par les professionnels, comme le plus bel hôtel thématisé du monde dans un parc de loisirs. Il s'appelle les Quais de Lutèce. C'est un magnifique, je vous invite à y aller. C'est dans un environnement magnifique. Pourquoi ? Parce que l'hébergement est un facteur clé dans les deux métiers. Je vous parlais tout à l'heure de la qualité de l'hébergement, du besoin de rénovation, d'avoir des prix raisonnables pour attirer les gens dans les stations, facteur clé. C'est aussi important dans les parcs pour les faire venir, pour augmenter la zone de chalandise, pour augmenter la durée de visite. Donc l'hébergement dans nos deux métiers, c'est un élément clé que nous allons continuer de développer dans les prochaines années.
Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes, vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
C'est parti pour les trophées Europe 1. La France bouge chaque jour, elle, où ils tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui, Dominique Marcel, le patron de la Compagnie des Alpes.
Bonjour Geoffroy Malateur.
Bonjour.
Il y a un petit décalage parce que vous n'avez pas pu venir en studio aujourd'hui. Donc, avec les miracles de la technique, on vous entend comme si vous étiez en studio. Alors vous, Geoffroy Malateur, vous êtes le fondateur de Spareka. Vous avez 43 ans. Spareka, ça existe depuis 2018. Vous avez fait des études d'ingénieur et l'idée de Spareka est née en quelque sorte de votre vie personnelle. On va vous écouter. C'est parti pour le pitch. Vous avez une minute.
Bien, alors je vais vous présenter Spareka. Spareka vous aide à réparer vous-même votre électroménager et plus généralement tous vos appareils de la maison et du jardin. Cela se passe en 3 étapes sur notre site internet spareka.fr. Première étape, vous diagnostiquez gratuitement votre panne. Grâce à notre outil en ligne, en quelques questions, vous trouvez l'origine de votre panne. Dans 50% des cas, il n'y a pas de pièce à changer. Il s'agit alors juste, par exemple, d'enlever quelque chose qui bloque dans votre machine. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par un technicien en visio sur cette étape de diagnostic. Deuxième étape, dans 50% des cas, il faut racheter une pièce. On vous dirige alors vers notre site e-commerce qui a plusieurs millions de références. Et grâce à notre moteur de recherche, vous trouvez votre appareil et la pièce à changer. Et ça vous coûte en moyenne 40 euros. Troisième et dernière étape, vous recevez votre pièce chez vous. Et grâce à nos 800 tutos vidéo qu'on a réalisés nous-mêmes, on vous accompagne dans le changement de cette pièce.
Et c'est fini, merci. Bravo. Ah, c'est fini, moi je suis le méchant, je vous coupe, désolé. Geoffroy, en tout cas, on a bien compris comment vous travaillez du côté de chez Spareka.
Oui, donc on a bien compris, hein. Vous faites en sorte de qu'on puisse réparer nos appareils à la maison ou dans nos jardins à un moindre coût. Alors Geoffroy, je vous présente Nathalie Carré, chargée de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce, à la CCI France, qui a 2-3 choses à vous dire. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors oui, effectivement, d'abord, le contexte est hyper favorable entre les engagements des gouvernements européens vers la transition écologique, l'appétence des Français pour la réparation. 74% des Français pensent à la réparation quand leurs objets du quotidien sont cassés et 34% le font eux-mêmes ou d'autres délèguent à des proches. La foultitude des tutos qui sont bien utiles et puis le côté all-inclusive, le diagnostic.
C'est-à-dire, attendez, all-inclusive, ça veut dire que tout est inclus à l'intérieur.
Tout compris, voilà. Pardon. Un point amélioré peut-être, le site. Même si une majorité de personnes réparent leur objet cassé, il y en a quand même 90% des Français qui estiment ne pas être assez informés sur les solutions possibles pour bricoler. Peut-être qu'il faut donc revoir un peu le parcours du client sur le site et commencer par « je m'informe sur les cas où il est intéressant, simple de réparer ou pas », parce qu'il y a quand même des fois où effectivement c'est pas possible. Deux, je diagnostique, ce qui veut dire en fait remonter votre outil de diagnostic tout en haut de la page du site, avant la recherche de référence de l'appareil à réparer. 3, je comprends avec les tutos. 4, j'achète les pièces détachées. 5, je reçois mes pièces détachées avec un rappel des tutos à regarder pour réparer. Ainsi, l'internaute, qui soit doué ou pas, je suis dans la catégorie non douée, peut être accompagné, peut être accompagné de bout en bout, grâce à vous, faire des économies et protéger la planète.
Alors, c'est extrêmement intéressant ce que nous dit Nathalie Carré. Geoffroy, est-ce que vous avez des petits éléments de réponse à apporter ?
Alors, écoutez, nous, on est exactement dans cette démarche d'encourager le client à pouvoir venir chez nous et d'abord de s'informer. Donc, c'est vrai que lorsqu'il arrive sur la homepage, la plupart du temps, notre client s'est déjà informé. Il arrive souvent sur une autre page qu'on appelle la page « Comment réparer ?» qui est une page dédiée sur notre site internet à toute cette partie information et après ça le guide. Donc on a un chantier en cours et Nathalie a touché au bon endroit qui est de refondre notre homepage pour que justement elle soit plus précise dans ce parcours-là.
Dominique Marcel, vous en pensez quoi ?
Formidable, on gagne du temps, on fait des économies, on évite l'obsolescence programmée, on est dans l'économie circulaire, l'empreinte carbone. Alors moi j'adore parce que je ne suis pas du tout bricoleur, donc ça m'aiderait quand même beaucoup. Ça aiderait encore plus ma femme, parce que chez moi, c'est ma femme qui bricole. Mais très, très bien. Très bien.
Geoffroy, on a bien posé cette question, nous, dans La France Bouge, avec Emmanuel. Dans 5 ans, vous voyez où ?
Dans 5 ans, je pense qu'on sera l'acteur digital de référence dans le monde pour accompagner tout le monde à réparer chez soi les appareils, que ce soit en auto-réparation ou en accompagnement des professionnels qui voudront utiliser notre outil de diagnostic pour pouvoir aller chez d'autres personnes réparer.
Merci en tout cas, ça s'appelle Spareka. Merci à vous Geoffroy Malaterre. Nathalie Carré, merci beaucoup, on vous retrouve demain.
Si vous avez vous aussi un projet, une envie d'être challengé, eh bien c'est simple, vous envoyez votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidats ou candidats en route pour les trophées Europe 1, La France Bouge.
Allez, suite et fin de notre émission, Dominique Marcel, le PDG de la Compagnie des Alpes. Vous restez avec nous encore quelques minutes.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Demain au travail avec toujours notre grand témoin du jour, Dominique Marcel, le patron de la Compagnie des Alpes.
Et vous avez bien fait de rester avec nous, Dominique Marcel, parce que nous, on le voit chaque jour, La France Bouge, les Français ont des idées. Et même au sein de leur entreprise, les choses changent. Aujourd'hui, nous sommes avec l'entreprise LisePlan. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Vous êtes Odette Dacuna, vous êtes la directrice des ressources humaines de LisePlan. C'est une entreprise de location de voitures longue durée. Vous êtes 470 collaborateurs, pour la plupart en télétravail. Et pourquoi demain au travail ? Eh bien parce que vous avez décidé de faire du bien à vos salariés en rendant leur espace de télétravail le plus agréable possible. Racontez-nous.
Oui, avec grand plaisir. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, une toute petite précision sur notre activité. En fait, on en a deux. En fait, on est une société internationale d'origine néerlandaise et sommes leaders sur deux marchés. La location de longue durée de véhicules neufs et le marché des véhicules d'occasion avec sa marque Carnex.com. Mmh. En fait, on fait partie d'un groupe international extrêmement dynamique et on a souhaité en fait mettre l'ensemble de nos collaborateurs en télétravail. Donc, au niveau local, au niveau de la France, donc 470 salariés, on a privilégié le télétravail et on a mis à leur disposition des outils performants, à savoir un ordinateur portable, un iPhone, un casque audio sans fil, mais également on a souhaité allouer un budget pour leur permettre de s'équiper à la maison et travailler dans de bonnes conditions.
Donc un budget dédié pour chaque collaborateur.
Oui, tout à fait. Et en fait, chacun pouvait l'utiliser selon son souhait. Hein. Donc, si vous n'aviez pas d'écran à la maison et vous vouliez un double écran, vous pouviez tout à fait en acheter un et vous faire rembourser. Donc, au travers de ce budget, ça pouvait être aussi un bureau d'appoint. Enfin, voilà, en fonction de l'environnement de travail à la maison.
Si vous faites ça, c'est parce que vous imaginez que le télétravail va perdurer. C'est-à-dire que là, l'idée est de se dire, bon, bah, au-delà même du confinement, 2 jours, 3 jours par semaine, nos collaborateurs vont être amenés à continuer cette solution.
Exactement. En fait, on a en parallèle négocié avec nos partenaires sociaux un accord de télétravail pour pouvoir le mettre en place en dehors de cette période exceptionnelle. Et on est parti sur 2 jours en télétravail pour tous les collaborateurs.
Je me tourne vers vous, Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes. Là, on a l'exemple frappant d'une entreprise, un Lisplan, qui met en place toute une enveloppe, un budget pour faciliter la vie des collaborateurs au télétravail. Chez vous, à la Compagnie des Alpes, comment vous organisez ?
On a mis des gens en télétravail, notamment au début, et puis là maintenant, récemment. Je pense que ça a été très efficace. Hein, on n'aurait pas pu faire autrement.
C'est recommandé.
Je vais apporter une petite nuance. Le télétravail, c'est pas non plus la panacée. Alors, votre spécialiste a raison de dire qu'il faut aménager les conditions du télétravail au mieux. Et ça, c'est très bien, cette initiative. Mais soyons clairs, il y a aussi un plateau. On a vu que c'était un peu moins efficace après. Les gens ont besoin de se rencontrer, de se voir, de se parler, de se motiver
quand
ensemble.
Vous avez vu que c'était un poil inefficace à un moment, senti que là, pendant ce deuxième confinement, c'est beaucoup plus dur.
C'est plus dur, oui. Les gens voudraient revenir, c'est plus dur. Et on voit quand même les limites aussi de l'efficacité.
Odette Dacuna, comment réagissent vos salariés quand ils voient tous les efforts que fait l'entreprise pour faciliter la vie en télétravail ?
Tout ce qu'on a pu mettre en place, c'est très très bien perçu. Je suis totalement d'accord avec votre invité. Je pense que le bon compromis, c'est les deux. Aujourd'hui, on a aussi des demandes pour que les gens puissent revenir partiellement au bureau, parce que je pense que le lien est extrêmement important également, et de pouvoir échanger et de se voir, donc, et pas que systématiquement au travers d'un outil à distance. Exactement.
Merci à vous, Odette Dacuna, DRH de Lisplan, qui a mis en place des enveloppes et
des solutions pour faciliter le
télétravail. Merci à vous, Dominique Marcel, le PDG de la Compagnie des Alpes, d'avoir été notre invité dans La France Bouge.
Et on va parler de quoi demain, Elisabeth ?
Et bien demain, on va aller acheter une piscine, Emmanuel.
on a de l'argent. On va en tout cas voir que les piscines se développent fortement en ce moment. À suivre, Le Flash et Christophe Ondelat.